OK, donc on va commencer. Je pense qu'on a pas mal notre équipage. S'il y en manque, ils vont se rajouter. Ça fait qu'on va commencer. Aujourd'hui, on est dans l'intervalle, c'est-à-dire la période entre la fête des semaines ou la Pentecôte, aller jusqu'au septième mois. On part du troisième mois jusqu'au septième mois. C'est peut-être, après ça va être les trois dernières fêtes, les trompettes, le jour des expiations et le fête des tabernacles, mais il y a un intervalle entre les deux, puis c'est ce qu'on veut regarder ce soir, cet intervalle-là. Donc, on va peut-être commencer par un mot de prière, puis ensuite de ça, on va mettre tout en sourdine. Denis, si tu veux-tu mettre en sourdine? Après ça, on va commencer par un mot de prière, puis on va commencer à lire notre texte. OK. Ça marche, c'est qu'on va commencer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore ce soir de ce qu'on peut se tourner dans ta parole librement. On te remercie, Seigneur, qu'on a encore la liberté d'avoir ta parole puis de pouvoir s'entretenir des choses qui te concernent, des choses que tu as mises dans ta parole pour notre enseignement. On te demande ton aide ce soir afin qu'on puisse exposer et comprendre ce que ta parole nous enseigne par rapport aux fêtes de l'Éternel encore. On te remercie pour tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va aller dans Lévitique au chapitre 23.
On dépose les
Lévitique au chapitre
c'est bon,
23. Ouais, vous n'êtes pas encore en sourdine. OK,
bon.
attendez un petit peu. OK, là vous l'êtes. Bon. OK, Lévitique au chapitre 23. On va lire juste les versets 22 à 23. Donc, versets 22 à 23 de Lévitique 23. Il dit: Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc, on a vu que quand il dit l'Éternel parla à Moïse et dit, c'est qu'il nous introduit à une prochaine fête. Donc, ici, on est entre les deux versets. Le verset 22, c'est la fin de la récolte dans la fête de la Pentecôte. Donc, on arrive après ça va être les trois dernières fêtes, comme on a dit. Mais on va aller dans Romains 11. On va lire quelques versets dans Romains 11 pour nous parler de ce qui se passe durant l'intervalle aussi. Par rapport, on a dit que les quatre premières fêtes avaient une application pour l'Église. Selon le tableau que je vous ai envoyé, on voit ça. Il y a une application pour Israël. Et aussi une application pour l'Église. Mais les trois dernières ont une application seulement pour Israël. Donc, on est entre les deux ici, dans Romains 11, les versets 11 à 15. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la mise de côté, de mise à l'écart d'Israël, maintenant le Seigneur s'est tourné vers les nations. Puis c'est ça qu'on voit, c'est la récolte dans l'intervalle entre les fêtes, c'est la récolte de cette moisson-là. Puis aussi, on va lire les versets 25 à 26 de Romains 11. Donc les versets 25 à 26. Et il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, on voit, c'est ce qui se passe dans l'intervalle, c'est que Israël étant mis de côté, maintenant le Seigneur récolte. Il fait une moisson parmi les nations. C'est l'Église qu'on voit ici, là. Donc, comme on a dit, entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y a un intervalle de 4 mois. 4 mois où on fait les récoltes. Mais durant cet intervalle-là, il n'y a pas d'événement prophétique comme tel. c'est que dans le sens, l'horloge prophétique s'est arrêtée. Et quand Israël a été mis à l'écart, puis la Pentecôte, le commencement de l'Église, la naissance de l'Église, on sait que l'horloge prophétique s'est arrêtée. On parle quand le Messie a été retranché, les 70 semaines de Daniel, ça s'est arrêté à la 69e, le Messie était retranché. Puis là, il y a un espace de temps où l'horloge s'est arrêtée et il reste une semaine, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel, qui va s'accomplir après que l'Église va être enlevée. Aussitôt que l'Église est enlevée, commence la 70e semaine de Daniel. Donc, c'est important. C'est sûr qu'on peut voir se préparer les choses pour on peut voir préparer les choses pour la tribulation, mais on n'a pas besoin de rien voir. L'Église n'a pas donné un signe pour l'enlèvement. Ça pouvait arriver n'importe quand, comme ça peut encore arriver n'importe quand. Il y a rien, il n'y a pas besoin d'aucune prophétie qui s'accomplisse pour que l'Église soit enlevée. Tout peut s'accomplir après. Mais comme je dis, ça peut arriver qu'on voit les choses se mettre en place. Puis je pense qu'on c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. On voit les choses se mettre en place. Mais la prophétie concerne Israël. Mais là maintenant, Dieu nous a choisi, s'est choisi un peuple d'entre les nations. Puis il va revenir avec Israël. C'est important de comprendre ça. Donc la Pentecôte était au troisième mois. Puis la fête des trompettes va être au septième mois dans l'année. Donc là, il y a une période, comme on a dit, de 4 mois, qu'on appelle cette période-là la période de la grâce, ou on peut l'appeler la période de l'Église. Donc, mais une chose que je voulais, c'est important parce qu'aujourd'hui même, on voit qu'il y a un enseignement qui avait été redécouvert dans la parole de Dieu qui concerne les dispensations. On appelle ça le dispensationalisme. C'est qu'il y a un enseignement dans la parole de Dieu qui est une dispensation, c'est des façons que Dieu a agi avec les hommes. C'est un peu comme des arrangements que Dieu a fait avec les hommes à différents temps. Donc, une dispensation, c'est une façon de mettre les choses en ordre. C'est ça que ça veut dire. C'est une administration de choses. C'est une façon dont Dieu agit avec l'humanité. Donc, Dieu agit avec l'humanité. Pourquoi? On voit ça dans la parole de Dieu depuis la création. Il y a différentes façons que Dieu a agi avec l'humanité. C'est sûr que Dieu ne change pas. Il est le même. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, mais pourquoi que Dieu a fait des arrangements comme ça avec l'homme depuis la création? Dans ce qu'on appelle des dispensations, c'est-à-dire des façons que Dieu agissait, c'est que Dieu se révèle à l'homme d'une façon progressive, puis c'est dans sa révélation de lui-même qu'il a agi de cette façon-là, en ayant des différentes façons d'agir avec l'homme. Donc, c'est avec des conditions, Dieu donnait des conditions à l'homme avec des causes à effet. Donc, s'il arrive, Dieu donnait comme un test à l'homme, mais dans cette façon-là de se révéler, Dieu, il voulait démontrer qui il est, il veut qu'on vienne à comprendre qui il est, parce que c'est sûr que pour comprendre Dieu, Dieu est infini, mais on en comprend, il nous donne de comprendre un peu de sa personne, puis il le fait dans les façons d'agir, quand on pense comme la loi, on dit. Personne n'était sauvé par la loi, mais la loi était une façon de faire en sorte que l'homme reconnaisse son péché afin de réaliser qu'il avait besoin d'un sauveur. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça que Dieu s'est révélé d'une façon progressive aussi. Donc, les dispensations, c'est considéré comme une période de temps, mais pas nécessairement une période de temps. C'est comme un arrangement que Dieu a fait avec l'homme parce que on ne peut pas limiter ça à des périodes de temps pour toutes les dispensations. Il y en a que oui, c'est une période précise, mais des fois, les dispensations se chevauchent. On va voir ça un petit peu, là. Ils se chevauchent. D'habitude, on voit en principe sept dispensations. Il y en a qui vont arriver avec huit, dépendamment comment on les compte, mais généralement, c'est comme sept dispensations. Mais la première dispensation qu'on voit, c'est l'innocence. Puis, on va en parler aussi, là, Monsieur Buttrey, Roy Buttrey, il a fait une carte, puis pas juste lui, il y en a d'autres aussi, qui démontrent ces dispensations-là. Donc, la première, c'est l'innocence. C'est à partir de la création d'Adam, qui était créé sans péché, et qui, jusqu'à la chute, jusqu'au moment où Adam a péché, on appelle ça la période ou la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, il y a la conscience du bien ou la connaissance du bien et du mal. La conscience, à partir de la chute, quand Adam a péché, jusqu'au déluge. C'est ce qu'on appelle ce qui est la conscience, c'est que l'homme maintenant connaît le bien et le mal. Mais aussi, la troisième, c'est le gouvernement qui part du déluge jusqu'à Abraham. On sait que quand Noé est sorti après le déluge, sorti de l'arche, Dieu a fait une alliance avec lui, puis il a donné le gouvernement, il a établi l'autorité civile sur la terre, donc il a donné un mandat à l'homme, une autorité à l'homme, comme on résume par si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, donc Dieu a mandaté un gouvernement, ça c'est du déluge jusqu'à Abraham, puis après ça on a la promesse. Mais la promesse et la loi, plusieurs la mettent ensemble, puis moi, j'ai tendance aussi à la mettre avec ensemble. Il y avait la promesse faite à Abraham que lui deviendrait une bénédiction pour les nations. On voit là-dedans qu'il est le père de ceux qui ont la foi, parce qu'il a été justifié par la foi. Et la loi qui est venue de Moïse, par Moïse aussi. Donc, on aurait d'Abraham à Moïse à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, ça serait la loi, la promesse et la loi. La cinquième, c'est la grâce, c'est la période maintenant de la Pentecôte. À partir du moment où le Saint-Esprit est descendu pour former l'Église, on appelle la période de l'Église, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, à la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. La sixième, c'est la tribulation. Qui est divisé en deux, on a la tribulation. La deuxième partie, les 3 ans et demi de la fin, sont appelés la grande tribulation. Donc, ça, c'est à partir de l'enlèvement, quand l'Église est enlevée, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, à sa deuxième venue, vienne établir son règne, qui est le millénium, qui, lui, est la septième dispensation. C'est le millénium, c'est-à-dire le règne de Christ à partir du moment où Christ va établir son règne jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité, qu'on va rentrer dans l'éternité. Donc, j'ai dit qu'il y en a qui se chevauchent, les dispensations, il y en a qui se chevauchent, donc, mais l'innocence, elle, ne chevauche pas. On sait que l'innocence, quand le péché est entré, ben, l'homme a perdu son innocence. Donc, l'innocence, vraiment, à partir de la création jusqu'à ce que Adam pêche. Donc, l'homme est devenu un pécheur, donc il a perdu son innocence. Mais la conscience, elle, continue. Parce que l'homme qui a eu la connaissance ou la conscience ou la connaissance du bien et du mal, on a encore aujourd'hui cette conscience-là du bien et du mal. On va aller dans Genèse au chapitre 2 et le verset 17. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. Ici, le Seigneur avait dit, peut-être on va aller au verset 16. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on va dans Genèse chapitre 3 au verset 5, Genèse 3 au verset 5, ici, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, c'est Satan qui parlait à la femme, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc ici, on voit que c'est la connaissance du bien et du mal. Le verset 7, on voit après qu'ils ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Puis quand on tourne, on voit que là, ils ont maintenant la connaissance du bien et du mal. On va aller au verset 22 maintenant. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, on voit que cette connaissance-là du bien et du mal, ça chevauche les autres dispensations aussi, parce qu'à partir de ce moment-là, nous aussi, on a cette connaissance-là du bien et du mal, comme Adam il l'a eu au moment où il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis le Seigneur, il dit, voici maintenant l'homme est devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que ça a produit pour nous, la connaissance du bien et du mal? Si on va dans Romains 7, on va voir dans Romains 7, les versets 14 à 24. Romains 7, les versets 14 à 24. On voit ici qu'il est dit, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, on a maintenant la connaissance du bien et du mal, mais le problème, c'est que maintenant, étant pécheur, on est porté vers le mal, puis on a cette loi du péché en nous qui nous empêche. On voudrait faire le bien, mais on fait le mal parce que, à cause du péché qui est en nous. Donc, on voit que ça s'étend, cette dispensation-là de la connaissance ou la conscience qu'on appelle. Eh bien, on a encore cette conscience-là du bien et du mal, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire, puis on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. On n'a pas la force de. C'est de là qu'on va voir le besoin, puis ça va être manifesté par la loi pour qu'on puisse reconnaître notre besoin d'être sauvé. Mais le gouvernement aussi, la dispensation du gouvernement aussi chevauche les autres. À partir de ce moment-là, on voit que Dieu a donné l'autorité à l'homme, il a délégué l'autorité à l'homme. Puis si aujourd'hui les gouvernements ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, ça n'empêche pas qu'un jour ils vont avoir à rendre compte de la façon dont ils ont géré, de la façon où ils ont utilisé cette autorité-là qui était déléguée, qui leur était donnée par Dieu. Ils vont avoir à rendre compte de cela. Donc, on va aller dans Genèse maintenant au chapitre 9. Et on va aller dans Genèse au chapitre 9. On voit que c'est là que le gouvernement a été établi, gouvernement humain. Chapitre 9, les versets 1 et 7. Puis toute la loi qu'on connaît aujourd'hui, la loi civile, prend sa source là dans quand Dieu a donné le gouvernement humain à l'homme. Dans Genèse, au chapitre 9, versets 1 à 7, c'est quand Noé est sorti de l'arche ici, il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte seulement. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Pardon, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image, et vous soyez féconds et multipliez, Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc, aussi, on a le fondement pour l'autorité civile, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, les gouvernements qu'on connaît aujourd'hui. Puis, si on va dans Romains encore, on voit que c'est là que l'enseignement qu'on voit ici, l'autorité qui a été donnée, qui nous donne, Paul donne une exhortation là-dessus au verset 1 de Romains 13 jusqu'à 7, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. On voit ici l'épée. Donc, elle dit, si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, Paul, démontre ici dans son enseignement l'autorité civile qui a été déléguée de Dieu. Puis, dans un sens, quand si on désobéit à l'autorité civile, eh bien, on désobéit au Seigneur par le fait même. Puis, même à ce moment-là, quand Paul écrivait ça, on sait que l'autorité civile à ce moment-là, c'était César. Puis, on sait que Paul, éventuellement, va avoir la tête coupée par César, mais quand même, pour nous autres, peu importe si eux sont fidèles ou s'ils reconnaissent Dieu ou non, nous, on doit reconnaître l'autorité que Dieu a donnée, qu'il a établie. Puis notre portion à nous, c'est d'obéir à cette autorité-là. OK, mais il y a des dispensations qui ne chevauchent pas les autres. On pense à la période de la grâce, comme la période de la grâce ne chevauche pas les autres, parce que c'est un moment précis à partir de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a formé l'Église et allé jusqu'à l'enlèvement. Ça, on appelle ça la dispensation de la grâce. Puis aussi comme la tribulation. La tribulation va être dans son temps, les 7 ans qui vont suivre l'enlèvement de l'Église, et aussi le millénium. Donc, la façon que Dieu va agir dans le millénium, ça concerne les 1000 ans qui vont faire le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les dispensations, comme on voit, ça fait partie du dessein éternel de Dieu. C'est que Dieu, on est dans le temps. On avait l'éternité, on a le temps comme une parenthèse, ensuite on tourne dans l'éternité. Donc les dispensations sont dans cette période-là du temps, c'est des façons que Dieu avait, c'est des façons que Dieu avait un dessein éternel à mettre à exécution. Dans Éphésiens 3:11, il nous est dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Dieu, dans son plan, dans le temps, il y avait un dessein éternel. Donc on part de l'éternité, on est dans le temps, ensuite on retourne dans l'éternité, puis dans ce temps-là qui est concerné, Dieu avait un dessein, puis Darby le traduit, lui, par le propos des siècles. Donc c'est le propos dans le temps. Dieu avait un but, il y avait un plan pour le temps. Le dessein, le mot dessein qui traduit du dessein selon le dessein éternel, Thayer nous dit que c'est le placement d'une chose. C'est le placer en vue comme l'arrangement des paix de proposition. Quand on parle des paix de proposition dans le tabernacle, eh bien, il y avait une façon de placer les paix de proposition. Il y en avait 12 qui représentaient les 12 tribus d'Israël, mais ils étaient placés en 2 piles de 6. Donc, c'était un arrangement que Dieu avait fait. Puis c'est dans ce sens-là, quand on parle d'un arrangement, là. Puis, dans l'anglais, ils appellent ça des pains de proposition. En français, c'est des pains de proposition, mais en anglais, ils appellent ça le showbread, c'est-à-dire Le pain qui est mis en démonstration. Donc, c'est ça que ces pains-là étaient placés dans une façon. Donc, c'est un arrangement qui était mis sur la table pour démontrer l'arrangement d'Israël. Ça, c'est donc les dispensations ou des économies sont des ententes de Dieu avec les hommes. C'est des ententes que Dieu a fait avec les hommes. C'est des arrangements pour pouvoir démontrer, pour pouvoir donner une révélation de Dieu progressive. Et donc, Dieu se révèle d'une façon progressive. Donc, dans ces ententes que Dieu a faites avec l'homme, il veut mettre l'homme à l'épreuve, il met l'homme à l'épreuve. Mais on voit dans chaque dispensation que l'homme faillit. L'homme manque toujours à l'entente que Dieu a faite. Les conditions que Dieu a données à l'homme, on voit toujours que l'homme manque à ces conditions-là. Puis en manquant à ces conditions-là, ça attire un jugement. Ça finit par un jugement par rapport à ce que l'homme a manqué à sa responsabilité ou ce que Dieu lui avait demandé comme épreuve. L'homme faillit toujours, mais Dieu lui démontre sa fidélité. L'homme faillit, mais Dieu démontre sa fidélité. Dieu n'abandonne pas son dessein éternel ou le propos des siècles va s'accomplir parce que à cause de la fidélité de Dieu, ça va s'accomplir. Parce qu'on voit que ces choses-là nous montrent le caractère de Dieu. L'enseignement des dispensations, c'est un enseignement qui se perd aujourd'hui. Parce qu'on retourne à la théologie de la Réforme. Puis dans la Réforme, on ne connaissait pas cet enseignement-là. Et souvent, les arguments de ceux qui rejettent l'enseignement des dispensations, ils nous disent que ça ne peut pas être ainsi parce que c'est trop neuf, comme parce qu'on remonte à Darby, c'est Darby un peu qui était un instrument pour ramener cet enseignement-là. Puis Scofield, dans sa Bible, dans ses notes, a vraiment exposé l'enseignement des dispensations. Donc, on dit aujourd'hui que ça fait depuis les années 1800, donc c'est trop neuf pour être acceptable. Mais une chose qu'on voit, c'est que Augustin, qui lui était un père de l'Église, sans tout être d'accord avec ce qu'Augustin a dit, mais Augustin, dans ce temps-là, il a dit de distinguer entre les âges et l'Écriture s'harmonise. Donc, on voit qu'avant, c'était connu dans l'Église primitive, on parlait de des âges ou c'est des dispensations. Puis Augustin disait distinguer entre les âges, puis l'écriture s'harmonise. C'est vrai que la seule façon vraiment d'harmoniser les écritures, c'est de distinguer les différentes dispensations. Comme on a dit, c'est pas que Dieu change, Dieu ne change pas, mais Dieu a changé sa façon d'agir avec l'homme afin de se révéler d'une façon progressive. Donc Dieu met l'homme à l'épreuve et lui donne une épreuve, mais Dieu montre sa fidélité. Parce qu'on voit que dans l'Ancien Testament, c'est pas comme dans le Nouveau, au moins on a ces deux façons-là qui sont différentes. Dans l'Ancien Testament, c'était différent du Nouveau Testament. On pense, dans ce temps-là, les croyants n'étaient pas habités par l'Esprit d'une façon permanente. Mais maintenant, nous, dans la période de l'Église, quand on est sauvé, on est habité par l'Esprit de Dieu, on est scellé par l'Esprit de Dieu. Puis il y a des choses on peut pas dire comme David qui demandait de ne pas lui retirer son esprit. Nous, on ne peut pas prier comme ça parce qu'on sait que l'esprit ne nous est pas retiré. On est scellé jusqu'à ce qu'on soit dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc, on voit au moins qu'il y a des différentes façons que Dieu a agi avec l'homme. Si on remonte plus loin, bien, on voit aussi que c'est comme ça aussi. Il y a des différentes façons que Dieu agit avec Adam dans le jardin avant qu'il pêche. Parce que le test qu'il lui a donné, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du moment qu'il en a mangé, ça a changé la situation maintenant. Il y avait la conscience du péché. Puis c'est là que l'évangile a été prêché à partir de la chute dans Genèse au chapitre 3. En tout cas, c'est comme ça, je pense que vous pouvez comprendre, on voit que Dieu a agi dans des façons différentes, dans ces différentes dispensations-là, en donnant un test à l'homme. Pourquoi que Dieu fait ça? Ben, Dieu est un Dieu de paix. On voit que surtout vers la fin, on va voir que l'homme de péché, ben, c'est l'iniquité, c'est l'anarchie, tandis que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est important. Dans 1 Corinthiens 14, 33, c'est le caractère même de Dieu quand il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Puis le mot paix ici veut dire harmonie. Quand on parle de paix, là, c'est l'harmonie. C'est où c'est la paix, l'harmonie, où ça, le mot veut dire joindre. Donc, tout s'harmonise. Quand on parle de joindre, on parle de les choses s'harmonisent. C'est comme ça que Dieu est un Dieu de paix, est un Dieu d'harmonie. Comme j'ai dit tantôt, Darby est un de ceux principalement qui a redécouvert cet enseignement-là par rapport aux dispensations. Puis on sait que ça s'était perdu pendant ce qu'on appelle les années sombres, parce que pendant les années sombres, la Bible était pas accessible, on lisait pas la Bible, donc on marchait d'après ce que l'Église disait, puis il y a eu bien des erreurs, puis on a perdu beaucoup de l'enseignement biblique qui avait été donné par les apôtres. Mais au moment où la Bible a commencé à être imprimée, l'imprimerie a été inventée pour imprimer la Bible a été répandue, puis la Bible en étant répandue, puis a été accessible au peuple, le peuple a commencé à lire la parole de Dieu, puis il y a des gens qui se sont mis à étudier la parole de Dieu pour revenir à ce que la parole de Dieu enseignait. Des gens comme Darby et d'autres dans la période, ce qu'on appelle la période du réveil. Mais ces enseignements-là sont revenus à la lumière. Donc, ce n'est pas parce que c'est nouveau, c'était là dans le temps, ça avait été oublié, ça avait été perdu, ça a été retrouvé. Donc, cet enseignement-là fait en sorte que la prophétie s'harmonise. Puis, comme j'ai dit, mais cet enseignement-là est remis en question aujourd'hui, est remis en question surtout parce qu'on retourne à la théologie de la réforme. Mais la théologie de la réforme avait des grandes lacunes. C'est ça, on part des années sombres, on a découvert le salut par la foi et non par les œuvres. On voit que même le salut par la foi avait été perdu. Maintenant, l'Église enseignait un salut d'œuvre, un salut accompli par les œuvres des hommes. Et on voit que les réformateurs ont redécouvert le salut par la foi, comme Luther, qui, avec le verset, le juste vivra par la foi, a découvert que c'est par la foi et non par les œuvres qu'on est sauvé. Mais quand l'Église de la Réforme a découvert ça, c'est comme s'ils ne se sont pas souciés de chercher plus loin. Ils ont découvert le salut par la foi, mais par rapport à l'eschatologie, par rapport à la vocation de l'Église, l'espérance de l'Église, toutes ces choses-là, où le fonctionnement de l'Église n'a pas été retrouvé à ce moment-là. On manquait ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié le système de l'Église catholique par rapport à son fonctionnement. Les réformateurs, il y avait. C'est dur quand on a quelque chose en tête, c'est dur de s'en sortir. Il faut vraiment être comme le Seigneur a dit, si on ne devient pas comme des petits-enfants, c'est-à-dire qu'on prend au mot ce que lui nous dit, comme un enfant prend au mot ce qu'on lui dit, eh bien, on n'a pas découvert ces vérités-là. Puis on voit que même comme le baptême des enfants qui avait été introduit dans l'Église, c'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de baptême d'eau, de baptiser des croyants, des gens qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Mais à ce moment-là, on a, dans ces églises-là qu'on a formées dans la Réforme, on a continué de pratiquer le baptême des enfants. Et on voit aussi que c'était des églises qui étaient structurées selon le modèle de l'Église catholique, avec un clergé laïcité, comme dans l'Église catholique. On a vu aussi des églises d'État. C'est devenu comme des luthériens, l'Église réformée, dépendamment dans quel pays qu'on demeurait. En Allemagne, c'était l'Église luthérienne. En Suisse, c'était l'Église réformée, puis ainsi de suite. On a formé des églises d'État. Mais ils n'ont pas approfondi l'eschatologie. On parle dans l'Église catholique comme On était amillénaristes. On pensait à la fin du monde, Dieu viendrait avec des balances, il jugerait les œuvres bonnes puis les œuvres mauvaises. Si la balance pèse plus d'un côté ou de l'autre, selon qu'elle pèse plus vers les bonnes œuvres, eh bien, on était au ciel. Si on pèse plus vers les mauvaises œuvres, on allait dans l'étang de feu. Donc, on voit, c'est ça. Ils n'ont pas approfondi l'eschatologie pour découvrir les événements qui arriveraient au temps de la fin. Mais c'est tout dans la parole de Dieu, ces choses-là. C'est juste qu'on ne les avait pas redécouvert, puis ça a été redécouvert par des gens qui ont eu à cœur d'étudier la parole de Dieu, puis de chercher, puis de remettre en question les idées préconçues qu'on avait de la réforme. Puis ils ont trouvé des choses, des vérités qui nous sont chères. Puis j'espère qu'elles nous sont chères. Ces gens-là, ils ont payé cher pour retrouver ces vérités-là. Mais nous, ils ne nous coûtent pas cher. Des fois, qu'est-ce qui nous coûte pas cher? Des fois, on laisse aller facilement. Mais c'est important qu'on puisse prendre ces choses-là puis les chérir. C'est des choses précieuses. Si les années sombres nous ont fait perdre ces vérités-là, maintenant qu'elles ont été retrouvées, j'espère que nous, à qui ils n'ont pas coûté cher, qu'on puisse les tenir fermes. Et comme Paul disait, de retenir la saine doctrine, sachant de qui ils l'avaient reçue. Et aussi, ils n'ont pas, par rapport à l'eschatologie, puis aussi l'espérance de l'Église. Ils avaient perdu de vue l'espérance de l'Église qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui était, c'est quoi? C'est l'enlèvement. C'est qu'on n'aura pas à passer à travers la tribulation. Puis beaucoup de gens, même des chrétiens aujourd'hui, remettent en question cette vérité-là que l'Église ne fera pas partie du jugement de Dieu sur la terre qui va être dans la tribulation, mais l'Église est enlevée avant la tribulation. Puis dans ces églises-là, comme l'Église réformée, Darby est allé en Suisse, puis il prêchait sur le retour du Seigneur. Puis les gens venaient de ces églises-là, ils venaient parce qu'ils étaient incrédules à la pensée de l'enlèvement de l'Église, puis ils se demandaient où ils allaient trouver ça dans le Nouveau Testament. Mais on voit qu'ils leur enseignaient partout l'espérance. On voit dans le Nouveau Testament que l'espérance de l'Église, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Quand le Seigneur Jésus va venir pour nous prendre de ce monde, pour nous emmener avec lui. Quand il dit les Thessaloniciens qui se sont convertis des idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et attendre des cieux son Fils. Donc, nous, comme moi je dis souvent à des gens qui nous disent qu'on va passer par la tribulation, donc si on devrait passer par la tribulation, le retour du Seigneur pour nous enlever n'est pas imminent. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir les 7 ans de tribulation avant qu'on soit enlevé. Mais ça veut dire qu'on n'attendrait pas vraiment le Seigneur. On voit l'espérance de Paul qui disait aussi aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, il leur dit un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Et c'est que si on perd de vue cette espérance-là, eh bien, moi, je leur dis à ces gens-là, je leur dis, si vous attendez l'homme de péché, moi, j'attends l'homme sans péché, celui qui va revenir pour nous prendre avec lui dans l'éternité. Donc, Jean nous dit aussi que cette espérance-là, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Si on attend de voir apparaître le Seigneur Jésus à n'importe quel moment, il peut arriver, eh bien, ça nous donne de se garder prêt, comme une épouse se garde pour son époux. Eh bien, ça nous donne de se garder des souillures du monde parce que quand le Seigneur va venir, on sait que lui va être pur. Puis dans un moment, dans un instant, dans un clin d'œil, il va nous transformer, puis on va aller à sa rencontre sur la nuée. Donc, c'est important de réaliser ces choses-là. Aussi, des choses qui avaient été perdues, c'est le sacerdoce de tous les croyants. C'est-à-dire que le sacerdoce, c'est que tous les croyants sont des sacrificateurs. On offre des victimes spirituelles à Dieu. C'est plus des victimes comme des agneaux ou des bœufs, mais on offre des victimes spirituelles, c'est-à-dire c'est le service qu'on fait envers Dieu. On est tous des sacrificateurs. Ça s'était perdu de vue, puis dans une forme de clergé laïté. Donc, il y avait le clergé et les laïcs qui ne servaient, c'était le clergé qui servait Dieu, mais on voit que dans l'Église, chacun de nous, on est appelé à servir Dieu. Aussi, on avait perdu de vue l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église. Puis on voit que les églises, ces églises-là ont un chef sur la terre. Ils ont un siège social. Mais vraiment, à ce moment-là, quand on a découvert ces choses-là, on a redécouvert que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est la tête de l'Église, que Dieu a donné à son Église comme chef suprême, puis c'est à lui qu'on doit obéir pour toutes les ce qui a un rapport avec la sainteté, avec la vie chrétienne, puis avec la vie d'Église. C'est lui qui nous donne l'autorité dans l'Église. Des fois, je voyais une fois, je passais à côté d'un bâtiment d'Église, puis c'était marqué là où Jésus est Seigneur. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que quand on se réunit, est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui a le dernier mot? Est-ce que c'est à lui qu'on se réfère pour notre fonctionnement? Est-ce que c'est lui qu'on recherche pour la direction qu'on a dans l'Église? Eh bien, c'est lui, Dieu l'a donné comme chef suprême à son Église. Puis la pratique de cela se fait quand on marche selon lui, pas selon les influences du monde, pas selon les tendances même évangéliques, mais vraiment qu'on recherche la parole de Dieu comme autorité suprême pour nous diriger dans la façon de marcher. Quand on pense à l'Église de la Réforme, eh bien, dans l'Apocalypse, quand on voit les sept églises de l'Apocalypse, on voit que dans les sept églises de l'Apocalypse, on a un panorama un peu de l'histoire de l'Église dans ses différentes phases depuis 2000 ans. Et on voit que l'Église qui représente l'Église de la Réforme, c'est dans le chapitre 3, au verset 1 à 6. C'est l'Église de Sardes qui représente le temps de la Réforme dans l'histoire de l'Église. Puis, on voit qu'est-ce que le Seigneur Jésus, qui est la tête de l'Église, le chef suprême de l'Église, on voit que lui donne son évaluation de cette Église-là. Puis, on voit que ça fonctionne d'après la façon que ça s'est produit à ce moment-là. Dans le chapitre 3, verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. On vit au début qu'il marchait au milieu des sept chandeliers d'or. Puis c'est celui qui est le chef. Il dit, je connais. Donc, il peut évaluer. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Donc, on voit qu'avant la réforme, le salut était par les œuvres. Donc, les gens n'étaient pas sauvés. On n'est jamais sauvé par les œuvres, mais il faut être sauvé par la foi. Le salut a été ramené. Et je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, pourquoi? On voit que ces églises-là, maintenant, sont revenues dans le salut par les œuvres. Parce que maintenant, comment ça se fait qu'on est revenu? Parce qu'ils étaient fondés sur le salut par la foi. C'est ça qui avait été découvert, le salut par la foi, le juste vivra par la foi. Et si on va dans les églises luthériennes, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a personne de sauvé, mais on voit que qu'est-ce que les gens, quand on leur parle du salut par les œuvres, d'avoir l'assurance d'avoir nos péchés pardonnés puis de savoir sauver pour l'éternité, ces gens-là ne connaissent pas ce salut-là. On se demande pourquoi ils connaissent pas ce salut-là. Bien, on a fait rentrer dans l'Église par des sacrements, comme l'Église catholique. Sacrement, c'est ce qui confère une grâce. Donc, par des sacrements, comme par le baptême. On entrait dans l'Église par le baptême, mais on entrait comme bébé. Donc, un bébé n'a pas encore cru. Un bébé n'a pas connu la conversion. Puis on le faisait entrer dans l'Église comme on entrait dans l'Église catholique, comme nous, on a été baptisés, on est entré dans l'Église catholique, mais on n'avait jamais connu la conversion comme une expérience individuelle avec le Seigneur. Donc, ces églises-là se sont remplies de gens qui n'étaient pas sauvés. Donc, c'est pour ça que maintenant, il dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Puis il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, ils ont découvert le salut, mais leurs œuvres n'étaient pas parfaites. Ils n'ont pas découvert les choses importantes par rapport à l'eschatologie, par rapport au fonctionnement de l'Église, par rapport à l'espérance de l'Église, le fonctionnement des croyants dans l'Église. Et je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Donc, cette lumière-là nous vient par la parole de Dieu. Ils se sont arrêtés, ils ont découvert le salut par la foi, mais ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas poussé plus loin pour se demander, quand ils ont formé ces églises-là, de quelle façon l'Église devait fonctionner. Chercher les Écritures, s'arrêter pour chercher comme ils ont cherché pour le salut, ils n'ont pas été plus loin. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc, on voit le retour du Seigneur est introduit avec cette église-là. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc, quand même, il y a des gens dans ces églises-là qui peuvent être sauvés, qui ont connu le salut par la foi, puis qui ne se sont pas souillés, comme il dit ici. Puis le Seigneur les connaît. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Donc, c'est ça que le Seigneur connaît. Puis il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, puis ils sont scellés. Leur nom est dans le livre de vie. Il les connaît. Il les effacera pas. Il va les garder. Il va, même s'ils sont dans des systèmes qui sont des systèmes d'hommes, le Seigneur les connaît, il connaît ceux qui sont sauvés vraiment, réellement. Puis, il n'effacera pas leur nom du livre de vie. Ça ne veut pas dire qu'il peut être effacé. Il y a des gens qui nous disent, bon, si le nom peut être effacé, ce n'est pas ce que ça dit. Ça dit le contraire. Ça dit qu'il n'effacera pas leur nom du livre de vie. Ça ne dit pas qu'il peut les effacer. Il ne faut pas aller avec une logique pour dire que s'il n'effacera pas, donc ça peut s'effacer. C'est qu'il confirme l'assurance de celui qui est dans le livre de vie, que son nom ne peut pas être effacé. Donc, le Seigneur leur dit ces choses-là, leurs œuvres ne sont pas parfaites, puis il leur parle du retour du Seigneur, mais il y a aussi des croyants qui sont dans ces églises-là, puis mais de la réforme est sorti plusieurs dénominations. On voit qu'avant la réforme, il y avait l'Église. On parlait de l'Église catholique qui était une déformation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à cause de toutes les traditions d'hommes et à cause que l'Écriture avait été perdue de vue, puis qu'on avait ajouté des traditions d'hommes. Mais il y avait tout au long de l'histoire de l'Église, il y avait des petits groupes de croyants qui étaient basés sur la parole de Dieu et qui ne marchaient pas avec l'Église catholique. On les appelait des dissidents, des gens qui ne marchaient pas. L'Église les a persécutés parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec eux, mais eux, ils marchaient dans la simplicité de la parole de Dieu. Puis, on les a persécutés, on les a mis à l'écart, mais Dieu les connaissait, des gens qui cherchaient vraiment à marcher selon la parole de Dieu. Il y a un livre qui a été traduit en français qui s'appelle L'Église ignorée de E.H. Broadbent, qui est la traduction de Pilgrim Church, l'Église en pèlerinage. C'est un très, très bon livre, très, très intéressant quand on lit par rapport à l'histoire de l'Église. Si vous voulez, il doit être encore disponible. Je pense que c'est les éditions Impact qui l'avaient, mais je l'ai vu en français. C'est un très bon livre qui s'appelle L'Église ignorée, qui retrace des croyants qui, depuis les apôtres, ont persévéré. C'était pas nécessairement des grands groupes, c'était des petits groupes, mais qui persévéraient à rester attachés à ce que l'Écriture enseignait. Puis on les voit tout au long de l'histoire de l'Église, ces gens-là. C'est pour ça qu'on appelle l'Église ignorée. Mais à la fin, dans le réveil, il y a des gens qui ont découvert ces vérités-là qui étaient perdues. Donc c'est important de garder ça en tête quand on pense à ces choses-là. Donc, comme j'ai dit, on entre dans ces églises-là par des rituels comme dans l'Église catholique. Donc, c'est pour ça qu'on se ramasse avec un paquet de gens qui ne sont pas sauvés. Puis, ce n'est pas le Seigneur qui ajoute à l'Église chaque jour. On sait que le Seigneur ajoute à l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église universelle, ce n'est pas une Église locale, c'est l'Église complète de tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Ça, c'est l'Église universelle et elle, c'est le Seigneur qui contrôle là-dedans. Il n'y a aucune erreur. Personne n'est ajouté à l'Église universelle qui n'a pas connu la conversion du cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit que c'est les hommes qui les ajoutaient. Dans l'Église locale, on essaie de pratiquer ce qu'on voit dans l'Église universelle. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs, mais c'est une responsabilité de s'assurer que les gens qui arrivent, qui nous arrivent, qu'ils aient vraiment compris le salut par la foi. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui nous arrivent d'un peu partout à cause de l'immigration. Puis des fois, c'est ambigu. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Eh bien, si on les reçoit sans qu'ils soient sauvés, c'est une disfaveur pour eux autres parce qu'ils pensent qu'ils sont corrects. Quand ils ne le sont pas, ça va être, on les trompe en les recevant comme s'ils étaient vraiment des croyants. Donc, c'est important de vraiment, c'est sûr qu'on peut faire erreur, c'est pas toujours facile à discerner. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir le langage, mais qui n'ont pas connu la vraie conversion du cœur. Donc, c'est important de faire attention. Quand on vient aux dispensations, il faut faire attention. Ceux qui ne distinguent pas les dispensations, ils font des graves erreurs concernant l'Église, Israël et les nations. Dieu n'agit pas de la même façon avec Israël, l'Église et les nations. Ça fait que c'est ce qui. Puis qu'est-ce qui donne la force à cette nouvelle façon de penser-là, de rejeter les dispensations? Ben c'est ça, d'après ce qu'on enseigne dans les écoles bibliques. Puis dans les écoles bibliques, on voit qu'on est revenu beaucoup parce que quand on enseigne à une classe d'étudiants, eux, si on enseigne à 200 personnes qui vont aller enseigner des milliers, eh bien, ça se répand plus rapidement. Donc, il faut faire attention à ce qui nous vient des fois des écoles bibliques. C'est pas que c'est nécessairement tout mal, mais il faut juger à la lumière de la parole de Dieu. Ces gens-là sont instruits d'une façon académique. Mais c'est vraiment, on voit que ces vérités-là qui ont été découvertes, c'est des gens qui ont passé du temps dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans l'étude de la parole, dirigés par l'Esprit. Puis le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, 25, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Puis dans 1 Corinthiens 1, au verset 26, 27, on voit encore la même pensée. Vous savez, il y a des choses que des gens qui sont des théologiens qui ne connaissent pas. On sait même qu'il y a des théologiens qui ne sont pas sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, comment ils peuvent comprendre les choses de l'Esprit de Dieu? Mais dans 1 Corinthiens 1, au verset 26 et 27, Paul dit aux Corinthiens, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Donc, ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas allé à l'école biblique, mais qu'il est allé dans la présence, comme quelqu'un disait à un moment donné, quand ils lui ont demandé à quelle école il avait été, il dit à l'école Sainte-Marie. Et on dit, c'est quoi? On ne connaît pas cette école-là. Mais c'est au pied du Seigneur Jésus, avec dans la prière, dans l'humilité, en étant ouvert à ce que l'Esprit de Dieu peut enseigner, qui nous enseigne toute la vérité. Puis dans 1 Corinthiens 2, vous savez, si un théologien n'est pas sauvé, puis il y a des théologiens qui ne sont pas sauvés. Mais il dit, quand il parle au verset 13 de 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 2, excusez. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec un langage, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui n'a pas connu le salut en Jésus-Christ, il dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, c'est ça que quand on passe du temps dans la parole de Dieu, après qu'on a reçu le salut par la foi en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu nous habiter pour nous diriger, pour nous instruire dans la vérité. Puis le Seigneur révèle les choses à ceux qui, sans avoir d'idées préconçues, s'approchent de lui pour être enseigné par l'Esprit dans la parole. Je vais m'arrêter là. On est un peu dépassé le temps. C'est que je vais vous donner la possibilité de vous prendre votre micro si vous avez des commentaires ou des questions. On va passer quelques minutes à regarder ça ensemble.
Bon. Monsieur Laurent, vous parlez de
Oui.
Broadbent, là?
Oui, c'est ça, oui.
C'est lui, les...
Oui, c'est
les dix
elle.
ignorés, là, c'est de... C'est
Ah.
marqué la collection d'or de
Ouais.
E.H. Broadbent. La
C'est ça.
collection d'or.
Ouais.
Il y a pas mal de
Puis,
stock
oui. Oui, c'est très intéressant. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les faits sont relatés non d'après les écrits de ces gens-là, mais les écrits de leurs ennemis, parce que leurs écrits ont été détruits
là.
là, en grande partie. Donc, ce n'est pas ce qu'eux autres disaient d'eux-mêmes, mais c'est ce que leurs ennemis disaient d'eux.
Oui, oh, ouais, c'est ça. C'est vraiment l'Église parallèle à l'Église catholique. C'est incroyable.
Ouais.
La persécution, puis les... incroyable.
Ah, c'est très intéressant. Ça vaut la peine. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu.
Là, j'aurais une question à vous poser. Je m'excuse, je ne veux pas prendre de temps. C'est parce que j'ai des frères sur le côté d'un Zoom de mardi soir, là.
Oui.
Il y en a un qui demeure à Rapide Blanc, en haut de la Tuque.
Oui.
Mais vous allez à la Tuque,
Oui.
une église là-bas, hein?
Oui.
Il y a une église, là. C'est ça que je leur ai
Oui.
dit. Il y a une église de frères là-bas, à la Tuque, là.
Oui.
Que le monsieur peut venir à cette église-là, puis qu'il n'y a pas de problème. L'enseignement est bon, puis tout, là.
Oui, c'est
OK, c'est bon.
le.
C'est
Oui.
correct. La commission a été bien faite. C'est parfait.
OK.
Oui. C'est ça, parce que le monsieur là-bas, il disait, je n'ai pas une église proche, mais ici, rapidement, puis la Tuque, ça doit être quoi? Peut-être à peu près 3 quarts d'heure de route, là, quelque chose comme ça, là.
OK, ouais, je ne suis pas sûr qu'on mène long, mais c'est ça. Ouais,
Me
mais
semble
il reste
c'est.
encore au rapide blanc, OK. Ouais.
Ah oui, c'est ça, il reste comme un. Il est vraiment. Je sais
Il n'y a
pas,
plus
là.
grand monde, là, rapide blanc?
C'est où est-ce qu'il reste plus d'arbres, je sais pas trop.
Oui, c'est ça,
C'est ça.
ouais. Oui, c'est un bon
C'est à peu près ça.
Rien, les a toutes coupées.
Ça vient d'été vos vacances, M. Saint-Laurent, vous là?
Oui. C'était pas des vacances vraiment, là. On est allé visiter l'Assemblée de Baie-Comeau, puis on est allé visiter, acheter avec Marc, mon frère. On est allé jusqu'à cette île visiter des gens qu'on connaissait aussi.
Vous avez fait encore 52 000 km.
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Bon. Je vais vous souhaiter une bonne soirée.
Oui, le Seigneur vous bénisse. Fait qu'on va peut-être terminer
Bon.
par un mot de prière. C'est pas d'autre. Puis après, s'il y en a qui ont des questions, on peut continuer après, mais ceux qui doivent partir pourront partir.
Juste une petite nouvelle, peut-être, pendant que j'y pense.
OK.
J'ai visité justement M. Buttrie il y a une quinzaine de jours.
OK.
Et puis là, je pense que c'est 99 ans.
Oui, il y a eu 99 ans au mois de novembre.
Ouais, OK. Alors, il m'a reconnu, il est toujours heureux de me voir. On a jasé environ 3 quarts d'heure. Puis par la suite, là, disons, il commence à répéter, là. Il a
D'accord.
l'Alzheimer, hein? Mais en général, il va bien, il n'est pas malheureux, il est bien traité.
Ouais, c'est ça. Lui,
Alors,
il a fait une carte des dispensations qui est assez intéressante. Ouais,
oui,
comme d'autres d'ailleurs. Ouais.
ouais. Puis saluer à toutes les gens de Cochir en passant.
Bon.
Merci.
Alors, on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta bonté. Merci pour les choses qu'on peut comprendre dans ta parole, Seigneur. Donne-nous d'avoir un esprit ouvert à ton esprit pour recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. On te remercie parce que ton esprit nous conduit toujours dans la vérité qui est ta parole. On te remercie encore une fois, Seigneur, puis bénis-nous, garde-nous de rester attachés fermement aux enseignements de ta parole jusqu'à la fin, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.